essentiel, où la simplicité devient synonyme d'élégance, où chaque objet a une histoire à raconter. Et si c'était chez vous ? Épure, le podcast qui soigne votre intérieur, où l'on parle de minimalisme, de feng shui, de simplicité, de vivre avec moins pour les intégrer au quotidien de nos vies. Je suis Hilaria Fatton, designer d'intérieur et minimaliste persuadée qu'il faut adapter cette démarche à notre style et à nos besoins. Je serai votre guide dans ce voyage vers un intérieur moins encombré. On sera ensemble pour des épisodes courts, parfois même des épisodes pilules, avec des réflexions rapides et percutantes, et de temps en temps avec des invités inspirants pour un partage plus en profondeur. Installez-vous confortablement, car nous allons partager ici astuces et conseils pour vous aider à aménager avec moins, mais toujours avec une touche de style et de couleur. Bienvenue chez Épure. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, ça va être un deuxième volet de la mini-série du minimalisme à tous les âges. On a fait le premier, il y a quelque temps, sur le minimalisme et les enfants et les adolescents, parce que c'est une étape de vie qui a besoin d'être accompagnée dans cette démarche. Aujourd'hui, on va passer au minimalisme à l'âge adulte. Ça peut paraître une évidence, parce qu'on y est quasiment tous à l'âge adulte. Mais ce n'est pas parce qu'on a passé l'époque de l'enfance et de l'adolescence où on avait besoin d'être accompagné, que le minimalisme soit plus simple. Si c'était le cas, on le saurait et ça serait beaucoup plus répandu que ça. L'une des principales difficultés du minimalisme à l'âge adulte, c'est de devoir faire la transition tout en partageant sa vie avec des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes envies, la même philosophie de vie et envie d'entamer cette démarche. C'est une véritable problématique qui revient régulièrement dans les commentaires que vous me laissez sur Instagram ou les messages que vous partagez lors de nos ateliers minimalistes. Parce qu'on ne sait jamais comment véritablement gérer ce blocage de l'autre. Le but, ce n'est pas d'arriver au clash, mais d'arriver à trouver une harmonie, un équilibre qui permette à tout le monde de s'épanouir, à tout le monde d'être bien chez soi, sans forcément limiter l'autre ou le limiter outre mesure. Ce qui est compliqué, c'est effectivement d'arriver, quand on a décidé de mettre en pratique la démarche, à l'échelle de l'intégralité de la maison. Quand on démarre, on décide souvent de commencer par des petits espaces, souvent des placards, des tiroirs, des contenants et surtout des espaces qui sont souvent fermés. C'est ce qui donne le plus de satisfaction sur le court terme et qui pousse à poursuivre dans la démarche. Mais assez rapidement, quand on partage la vie avec quelqu'un, on se retrouve à devoir faire des choix qui concernent des enjeux qui ne nous appartiennent pas. Dans le minimalisme, il n'y a pas beaucoup de règles. Il n'y a pas de manuel avec des instructions générales sur comment avancer, comment se comporter, quoi faire à quel moment, et ainsi de suite. Mais il y a une règle qui vaut pour tout le monde, et c'est celle qui concerne les autres. Décider de donner ou de vendre quelque chose qui ne nous appartient pas ne peut pas se faire sans le consentement de la personne à qui cet objet appartient. On ne peut pas faire le tri pour les autres. On en avait déjà rapidement discuté au moment de l'épisode pour les enfants parce que justement, c'est beaucoup plus simple de profiter de leur départ à l'école pour faire le tri dans leur chambre. Mais on ignore la relation intime que chacun de nous a avec les objets qu'elle possède. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas savoir pourquoi un enfant est autant attaché à un doudou plutôt qu'un autre. Et souvent, c'est le doudou le plus moche. À l'âge adulte, c'est quasiment la même chose. Nos relations avec les objets sont très profondes. On a un attachement qui est parfois difficile à expliquer. Le simple fait qu'on conserve chez nous des objets qui n'ont aucune valeur sentimentale ni marchande est un symptôme qui montre bien que la relation à l'objet est compliquée et souvent incompréhensible pour les autres. Pourquoi on garde des objets qui ne sont pas forcément d'utilité quotidienne ? Les raisons sont multiples, des objets qui nous rappellent une époque heureuse, des souvenirs de personnes qui ont fait partie d'un moment de notre vie, des cadeaux qu'on nous a offerts par des personnes qu'on aime ou pas, des achats qu'on a fait à un moment spécifique de notre vie qui correspondaient bien à ce qu'on était à cette époque-là, mais qui ne sont plus adaptés à ce qu'on est devenu aujourd'hui. Je suis sûre que vous pourrez trouver encore mille et une raisons qui justifient qu'un objet est encore chez vous. Il est donc important de comprendre pourquoi on a cet attachement aux objets et surtout d'essayer d'appliquer cette nouvelle règle à tous les objets qui rentrent dans la même catégorie. Un exemple pour tous, les cadeaux. Depuis le plus jeune âge, on nous apprend qu'un cadeau est précieux et qu'il faut le garder. On ne sait jamais, la personne, elle vient à la maison, elle ne le voit pas, qu'est-ce que je vais lui dire si elle me pose la question ? Un cadeau n'est pourtant pas une obligation. C'est quelque chose qu'une personne nous a offert à un moment spécifique, pour une occasion particulière, ou parce que tout simplement elle a pensé en nous en le voyant. Mais sans arriver à l'affreuse vente de cadeaux sur Internet au lendemain de Noël, on peut essayer de comprendre si ce cadeau est quelque chose qui nous fait encore véritablement plaisir. Le moment de l'offrande, pour utiliser un terme qui est presque religieux, est passé, parfois depuis des années. Parfois on n'a jamais aimé cet objet, ou on ne l'aime tout simplement plus. Parfois cette personne ne fait même plus partie de notre vie. Pourquoi alors cet objet qu'on n'aime plus, éventuellement, est encore chez nous ? Notre vie est une addition de moments qui se succèdent, qui nous poussent à évoluer. Nos goûts, nos envies, nos intérêts évoluent avec nous. Mais parfois les objets restent, sans explication rationnelle. Garder les cadeaux, tout simplement parce qu'ils nous ont été offerts, nous amène à remplir davantage nos maisons d'objets qui s'ajoutent à ceux qu'on achète nous-mêmes. Comme pour tout le reste, on peut se réjouir d'avoir eu ce cadeau à un moment de notre vie, mais on a aussi le droit de décider d'en faire profiter quelqu'un d'autre. Et surtout, vaut-il vraiment la peine de garder un objet uniquement à cause de l'éventualité que la personne qui nous l'a offert nous pose la question ? Notre liberté d'alléger notre espace de vie doit être plus forte que n'importe quelle injonction sociale qui nous pousserait à faire autrement. Au-delà de cadeaux, on a aussi tendance à garder des objets qui nous rappellent une époque révolue. Le fait qu'on garde des objets, parfois même des habits dans lesquels on ne rentre absolument plus, ne fait que prolonger un attachement viscéral avec une période qui n'existe plus. Une époque où on était tout simplement bien. Il y a quelques années, lors d'un atelier minimaliste, l'une des participantes avait raconté son expérience personnelle par rapport à cette envie de garder des objets liés à son passé. Elle s'était rendue compte que dans son placard, il y avait des habits qu'elle ne mettait plus, dans lesquels elle ne rentrait plus du tout et qui ne faisaient même plus partie de son style personnel. Mais elle ne comprenait pas pourquoi elle n'arrivait pas à s'en débarrasser. À force de se poser la question et de les voir dans le placard, elle s'était rendue compte qu'il y avait un dénominateur commun entre tous ces habits. Ils faisaient tous partie d'une époque très précise de sa vie. Jeune diplômée, dans son premier emploi, dans sa première phase de sa vie d'adulte, indépendante pour la première fois. L'envie de garder ses habits était pour elle une façon de s'accrocher à cette époque de sa vie qui avait véritablement été un moment heureux et un tournant dans sa vie d'adulte. Et c'est justement au moment où elle a fait cette connexion entre ses habits et cette période qu'elle a compris qu'il était temps de s'en débarrasser, car elle n'allait plus les remettre et ce n'était pas en les gardant dans son placard que cette époque allait revenir. On a presque l'impression qu'en gardant cet objet ou cet habit, on maintient ce fil invisible qui nous relie à cette époque ou à cette personne. C'est souvent le cas des cadeaux, par exemple. Récemment, j'ai entendu des témoignages de personnes qui avaient quasiment tout perdu lors de l'incendie de leur maison ou d'une inondation. Dans ces situations extrêmes, on perd tout ce qu'on a. On peut rarement récupérer des objets, on peut rarement récupérer les choses auxquelles on tient, véritablement. On n'a tout simplement pas le temps de les sauver. Et pourtant, les personnes qui vivent ces moments dramatiques de leur vie témoignent, pour la plus grande partie, d'un manque de quelques objets, un nombre infime par rapport à la quantité de choses qu'ils avaient dans leur maison. On porte les souvenirs de notre vie avec nous, toute notre vie. Et il est important de comprendre que ce n'est pas un objet qui va nous relier à ces souvenirs. Ça peut être une odeur, un bruit, une image qui va les faire ressurgir dans notre tête. Ce qui prouve que même sans nos objets du quotidien, on peut garder les souvenirs de notre vie avec nous en permanence. Revenons aux autres. Quand on réalise à quel point il est compliqué pour nous-mêmes de comprendre notre attachement à nos objets, imaginez l'abîme qui nous sépare de la compréhension de l'attachement d'une autre personne à un objet qui ne nous appartient pas. Pour la plupart d'entre nous, on partage la vie avec quelqu'un, des enfants, un mari, un compagnon, une femme, une compagne. Et très souvent, il est très compliqué de réussir à impliquer l'autre personne dans la démarche minimaliste. Décider de vivre avec moi fait partie d'un cheminement que chacun fait à sa façon et à sa vitesse. Tout le monde n'est pas intéressé, beaucoup de personnes n'y voient pas de raison de s'y mettre. Très souvent, on le considère même comme une lubie. Alors comment faire pour convaincre la personne avec qui on partage notre vie et notre lieu de vie pour qu'elle fasse cette démarche avec nous ? Le plus simple serait de vous dire que c'est impossible. Laissez tomber. On ne peut pas obliger quelqu'un à entreprendre une démarche dans laquelle il ne croit pas. On ne peut pas obliger quelqu'un à partager tout ce dont on a envie, tout simplement parce qu'on partage notre vie ensemble. Encore une fois, c'est un échange ressorti d'un de mes anciens ateliers minimalistes qui me revient à l'esprit. Selon les séances, c'était des rencontres de groupe entre 6 et 15 participants. On se retrouvait pour faire le point sur les aménagements à prévoir pour arriver à avoir un intérieur minimaliste et épuré, et aussi pour partager les expériences de chacun. J'ai eu 2 seuls couples en presque 6 ans d'atelier. Ils sont venus suivre ces ateliers ensemble car l'un des deux ressentait un décalage autour de leur perception de l'espace et de la quantité d'objets qui occupaient leur lieu de vie. Ce n'est pas important de savoir si c'était monsieur ou madame. Ce qui est intéressant, c'est que la personne qui avait décidé de venir à l'atelier et qui avait voulu amener sa compagne ou son compagnon voulait qu'une personne extérieure à la famille puisse dire à l'autre ce qu'il fallait faire pour se débarrasser de ses affaires. Ce type d'obstacle n'est pas anodin et n'est pas isolé. Combien de fois j'ai eu des commentaires qui me disaient « je n'arrive pas à convaincre mon mari ou ma femme à se débarrasser d'une partie de ses affaires, à arrêter d'accumuler des objets sans valeur et sans importance ». Parfois, ça ne sert à rien d'essayer de convaincre l'autre personne, de lui montrer objet à l'appui l'inutilité de cet objet, parce que pour beaucoup de personnes, avoir beaucoup de choses n'est pas forcément négatif. Mais on est là pour trouver des solutions. Chacun a besoin, chez soi, d'un espace qui soit à lui. Quand la place le permet, c'est une pièce. Quand la surface habitable est limitée, c'est un placard, une commode, un rangement. Un espace fini est souvent fermé. Ce n'est pas forcément une pièce où l'on s'isole. Ça peut être tout simplement un espace dans lequel on peut ranger, stocker les affaires qu'on considère importantes, qu'on veut garder, au cas où. Je ne sais pas si vous avez lu l'ouvrage de Michelle Obama, Devenir, Becoming. Il y avait un passage qui m'avait particulièrement frappée à l'époque. Elle parlait d'une pièce à la Maison Blanche dans laquelle Barack Obama se retrouvait tout seul et où il avait toute la liberté du monde. Et pour le président le plus puissant du monde, ça devait être quelque chose. Il pouvait laisser des papiers par terre, des livres sur les chaises, des chaussettes sur le bureau. Personne n'avait le droit de rentrer dans cette pièce. C'était sa pièce à lui. C'était un espace fini. Et c'était une toute petite pièce. Là-dedans, il pouvait faire exactement ce qu'il voulait, quand il voulait, sans que personne ne vienne lui donner des injonctions. C'est ce genre d'espace à soi dont je parle. Un lieu dans lequel se sentir libre de garder, de ne pas ranger, d'accumuler même s'il le faut. Quand on partage le lieu de vie avec quelqu'un, il est essentiel qu'il y ait des limites. On ne peut pas faire le tri pour les autres, mais on ne doit pas non plus subir l'accumulation en contrôlée des autres. Il faut qu'il y ait un équilibre, une harmonie entre les espaces des uns et les espaces des autres. Il est donc essentiel que quand on entame la démarche, on arrive à créer des barrières pour essayer de faire en sorte que l'autre personne ne se sente pas envahie par notre envie d'épure, qu'elle ne craigne pas que ses affaires sont en danger. Il faut être clair sur le fait que On est en train de faire le tri de nos affaires, mais on ne fera pas le tri des tiens. Mais à l'inverse, il faut que l'autre personne ne se sente pas légitime d'envahir avec son accumulation chaque surface que nous aurions éventuellement libérée en faisant le tri. C'est à ce moment-là que souvent il y a le clash. Il y a des années, j'avais aidé une amie à aménager sa pièce de vie et sa cuisine, et surtout à l'alléger. En discutant avec elle un jour sur ses besoins et ses envies, j'avais remarqué que dans sa petite cuisine, où elle manquait cruellement de rangement, il y avait une étagère qui était entièrement occupée par des bouteilles de bière, entre guillemets, de collection. C'était des bouteilles encore fermées que son compagnon avait ramenées de ses voyages autour du monde. Le problème en soi, ce n'était pas les bouteilles, mais le fait que ça lui empêchait d'avoir cet espace de rangement dont elle avait cruellement besoin à cause d'objets que pour elle n'avaient aucune valeur, mais que pour son compagnon étaient essentiels. Je ne suis pas allée chez eux depuis des années et je ne sais pas si cette collection est encore sur place, mais cet exemple montre bien le mur qui peut parfois s'ériger entre deux personnes au moment de mettre en pratique la démarche. Et cet exemple, c'est surtout l'occasion pour moi de vous parler justement des collections. Qui n'a pas déjà eu une collection, petite ou grande, dans sa vie? Ça peut être les cailloux, les coquillages quand on est petit. Ça peut devenir des collections de fèves, de galettes de roi, ça existe. Des collections de tableaux, des collections de disques, même de collections de vases en verre ambré qu'on trouverait sur les brocantes. Une collection est par définition un ensemble non fini, le plus souvent classé, d'objets réunis par un amateur en raison de leur valeur scientifique, artistique, esthétique, documentaire, affective ou vénale. On a tous envie de collectionner à un moment ou à un autre dans notre vie. Quand on parle de collection, on pense souvent aux grandes collections qui sont arrivées à un moment ou à un autre dans les musées du monde entier. Mais tout le monde collectionne quelque chose. Tout le monde a une passion pour une certaine catégorie d'objets. Mais jusqu'où on peut aller dans notre envie d'avoir des collections et à quel moment ça devient complètement incompatible si on a envie d'alléger notre chez-nous? Ce n'est pas la taille de la collection qui compte ou le type d'objet qu'on collectionne. Mais, comme pour tout le reste, ce qui est important au moment de décider de vivre avec moins, ce n'est pas de se débarrasser d'une collection dans sa globalité, mais de l'alléger. Quand on décide de commencer une collection, en général, on commence à acheter des pièces plus ou moins de valeur. Mais avec le temps, la collection évolue avec nous. Il se peut qu'au bout d'un moment, on ait suffisamment de connaissances pour savoir où acheter les meilleures pièces, comment les reconnaître. Et du coup, il commence à y avoir un déséquilibre dans la qualité des pièces qu'on garde. Le but aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce qu'on peut arriver à trier notre collection? Est-ce qu'on peut, dans le cadre de ce qu'on a mis de côté depuis des années, on peut décider que certaines pièces ont moins ou plus de valeur que d'autres? Il faut que, finalement, on garde une harmonie, une cohérence en termes de qualité. Une belle collection n'est pas forcément une collection avec énormément de pièces, mais ça peut être une collection avec beaucoup moins de pièces, mais mieux choisie. En prenant une collection dans ce sens-là, on arrive finalement à alléger aussi l'espace intérieur dans lequel elles sont exposées, parce que souvent, les collections, elles trônent dans un espace pour qu'elles soient visibles. Dans le minimalisme que j'appelle poussé, le minimalisme à la japonaise, où concrètement on arrive avec uniquement le strict nécessaire pour notre vie, une collection n'a pas de sens, car ça relève d'un attachement vers des objets dont on n'a pas une utilité au quotidien ou une utilité pratique. Mais dans le minimalisme dont on parle, c'est-à-dire un minimalisme qui nous correspond, un minimalisme avec lequel on a envie de vivre, il est tout de même essentiel de se dire qu'on peut avoir une collection, mais que cette collection est limitée dans un espace défini. C'est pour ça qu'il est essentiel d'arriver à pouvoir réduire sa taille pour qu'elle puisse tenir dans un espace qu'on aura éventuellement défini à l'avance. Avoir une collection fait partie de ces choses à l'âge adulte qu'il faut savoir faire évoluer. Est-ce que ça a du sens de la garder? Est-ce que ça a une véritable valeur sentimentale ou marchande? Est-ce qu'on peut l'améliorer, c'est-à-dire en limitant le nombre de pièces pour se concentrer sur sa qualité plutôt que sur sa quantité? Le même discours vaut pour les personnes qui ont des activités créatives. Il y a des années, j'avais rencontré une personne qui m'avait dit « Je fais des lampes, des sacs, je couds, je suis tout le temps en train de créer quelque chose. Je ne peux rien jeter parce qu'il pourrait m'être utile un jour. » Et du coup, la théorie du « au cas où » ne fonctionne pas pour elle, dans le sens que c'est essentiel qu'elle puisse garder ce bout de tissu, ce ruban, cette petite boîte, ce papier d'emballage, car un jour, elle va pouvoir l'utiliser pour l'une de ses créations. J'avoue que c'était la première fois que je me trouvais face à cette problématique. Cette personne avait tout simplement envie, elle avait besoin d'alléger son intérieur, mais sa créativité lui empêchait d'aller au bout de la démarche parce qu'elle ne s'y trouvait pas dans ce vide qui était décrit comme le but final du minimalisme. Comme pour les collections, j'estime qu'on ne peut pas se priver de cet aspect-là de notre vie si c'est ce qui nous fait, si ce qui nous passionne et si c'est ce qu'on a envie de garder. Comme pour les collections, il faut trouver un espace pour que cette créativité puisse s'exprimer sans envahir la totalité du lieu de vie. Encore une fois, ça peut être une pièce, si on en a la chance, ou un meuble, un placard, une commode, un set de tiroirs. Bref, un espace dans lequel vous pouvez concentrer la quantité d'objets qui pourraient être utiles à la création. J'ai presque envie de vous dire, ne vous privez pas de cette envie de création que vous avez pour alléger votre intérieur. Essayez par contre de faire en sorte que cette envie ne dépasse pas les bornes que vous-même vous êtes fixées, permet de ranger ces petits objets et de contenir son explosion. Vous serez encore plus performant dans la démarche minimaliste parce que vous ne serez pas frustré. Et si vous avez pu relier ces deux aspects de votre vie, le côté créatif d'un côté et votre envie et votre besoin d'avoir moins dans le reste de la maison, vous ne serez qu'encore plus heureux. C'est à l'âge adulte qu'on a tendance à vouloir vivre avec moins, soit parce qu'on a été éduqué par nos parents à avoir moins, chose plutôt rare puisqu'on vient de vivre des décennies de consommation accrue et disproportionnée, soit parce que c'est à l'âge adulte qu'on se trouve face à ce constat d'oppression par rapport à tout ce qui encombre nos maisons. Les raisons sont multiples. Il faut dire que le minimalisme, dernièrement, c'est devenu quelque chose qui est apparu comme une évidence dans notre société. Quand j'ai commencé à faire les ateliers minimalistes en 2014, c'était encore quelque chose qui était resté assez confidentiel. Marie Kondo avait déjà écrit son best-seller « L'art du rangement », qui était plus sur de l'organisation et du rangement plutôt que du véritable minimalisme, mais elle avait tout de même permis de faire découvrir cette philosophie de vie au plus grand nombre. Et pourtant, c'était encore rare de trouver des gens qui avaient envie de se lancer dans la démarche. Depuis, les choses ont changé et le minimalisme est devenu quasiment une tendance, mais surtout une évidence. Mais surtout, on s'est rendu compte des enjeux qui dépassent désormais les quatre murs de nos maisons. C'est-à-dire que être minimaliste aujourd'hui n'est pas juste une lubie parce qu'on a envie d'avoir moins. C'est surtout se rendre compte qu'avoir moins implique qu'on consomme moins, qu'on envoie moins de choses à la déchetterie, qu'on a une véritable action dans notre petit, dans notre quotidien, sur la masse de produits qui finissent sur les plages africaines, parce que nos déchetteries n'arrivent pas à les incinérer. Le fait d'être minimaliste aujourd'hui a aussi pris une conscience plus environnementale, parce qu'on se rend compte qu'on a un impact dans notre quotidien. Le fait de passer notre vie à accumuler, à faire du shopping, à acheter sans limite et à faire le tri à chaque fois que la tendance est passée, sans se rendre compte des conséquences que cette action peut avoir sur notre environnement proche ou lointain, a commencé à faire son petit bout de chemin dans la tête des gens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes adultes qui se rendent compte que c'est devenu presque une urgence sociétale d'essayer de limiter notre consommation, de limiter nos achats compulsifs, parce que de toute façon, nos placards, c'est des surfaces finies. On ne peut pas les remplir à deux mesures et ce n'est pas non plus juste de faire le tri tous les trois mois. Être minimaliste, c'est véritablement avoir un regard qui va au-delà de nos quatre murs et de se rendre compte que l'impact que notre action en tant que consommateur a sur l'état du monde actuel est réel. Mais ce qui est important aussi, c'est que on démarre cette action à l'âge adulte, on a derrière nous des années de vie, des années d'accumulation et des années d'accumulation de laquelle c'est difficile de se séparer. Au-delà des cadeaux dont on a parlé, au-delà des affaires des autres, des collections, on a aussi ce que nos parents nous ont transmis. Il y aura un troisième volet de cette mini-série et ça sera le minimalisme avec les seniors. Parce que là, c'est encore tout autre chose et un autre sujet. Mais on commence à en discuter aujourd'hui parce que c'est à l'âge adulte, malheureusement, qu'on se retrouve souvent dans la situation de récupérer les affaires de nos parents, les affaires des membres de notre famille qui viennent à manquer. À ce moment-là, en plus de l'accumulation qu'on a pu créer sur des dizaines d'années auparavant, on se retrouve aussi à gérer l'accumulation que d'autres personnes ont fait dans leur vie à eux. Et c'est à ce moment-là qu'il faut que notre position soit ferme. Il est essentiel que quand on se rend compte que notre consommation nous dépasse et qu'on essaye de faire le maximum pour vivre dans un intérieur allégé, ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut qu'on accueille tout ce que les autres ont accumulé avant nous. Quand je vous ai dit tout à l'heure « il ne faut pas faire le tri pour les autres », évidemment, je parlais des vivants. Quand on se retrouve à faire le tri pour ceux qui ont manqué, la situation est évidemment différente. C'est malheureusement quelque chose qu'on est obligé de vivre, parce que ça fait partie des traumatismes de l'âge adulte. Et c'est à ce moment-là qu'il faut qu'on arrive à faire un véritable choix. Ce n'est pas à nous de conserver des choses qui ont appartenu à quelqu'un d'autre. Nous n'avons aucune obligation à garder des objets que quelqu'un nous aurait offerts et encore moins à garder des objets que quelqu'un d'autre aurait accumulés auparavant. Et il n'y a pas de meubles de famille qui tiennent. C'est une démarche difficile car encore une fois on associe le meuble au souvenir et à une certaine idée de transmission qui en 2024 commence à devenir très fluctuante. Nous vivons aujourd'hui dans une époque où tout se dématérialise. On écoute la musique dans nos téléphones, on n'achète plus de disques ou de CD, on regarde les films en streaming, on lit des livres sur des tablettes. En quelque sorte, les meubles et les objets qui ont appartenu à des membres de notre famille deviennent comme un ancrage dans notre histoire, quelque chose que on peut éventuellement transmettre à nos enfants ou aux générations futures. Le problème, c'est que quand vous parlez avec les générations futures, entre guillemets, ils n'en veulent pas de nos meubles. Il suffit de faire un tour dans n'importe quel Emmaüs de France pour retrouver des dizaines de buffets en bois massif à 30 euros, des chambres à coucher en palissandre, du mobilier que nos grands-parents ont acheté souvent au moment de leur mariage et qui ont conservé toute leur vie. Mais chez nous, ces meubles trouveraient difficilement une place. Il y a aujourd'hui un retour de cette passion vers les objets du passé, que ce soit des objets vintage qu'on retrouve dans les brocantes ou tout simplement des objets qu'on récupère dans nos maisons de famille. Mais le problème, c'est aussi la taille de nos appartements, la taille de nos maisons de ville qui souvent nous empêche de pouvoir faire entrer davantage de mobilier, davantage d'objets. C'est à ce moment-là qu'il faut réfléchir différemment, qu'il faut se rendre compte que ce mobilier, ces objets ont fait partie de la vie de quelqu'un d'autre, qu'il est maintenant arrivé le moment pour nous de s'en séparer. Ça ne s'applique pas à tout, évidemment, mais ça s'applique souvent à la plus grande partie de ceux qu'on hérite. Faire le tri chez soi, de se barrasser de tout ce qui nous encombre pour ensuite remplir les espaces vides de tout ce qui auparavant encombrait les maisons de nos parents n'est pas la bonne équation. Il faut, comme on le fait avec nos affaires, apprendre à le faire aussi pour les affaires de ceux qui ne sont plus là. Ce n'est pas parce qu'on se débarrasse d'un meuble qu'on balaye le souvenir d'une personne, qu'on balaye la vie d'une personne. On se débarrasse d'un meuble tout simplement pour laisser la place à autre chose. Peut-être tout simplement au souvenir. Je suis sûre qu'on pourrait continuer encore pendant longtemps à essayer de faire le tour de tout ce qui encombre nos espaces de vie à l'âge adulte. Peut-être qu'il y aura quelques épisodes supplémentaires à ce sujet, mais pour le moment, je pense qu'on a survolé, pour le moins, les points essentiels. Et pour terminer, je voulais vous donner un tout petit dernier conseil. N'attendez pas d'avoir une semaine de congé pour démarrer. N'attendez pas d'avoir un mois pour faire le tri et le nettoyage complet de votre maison. Nous avons tous une vie très chargée entre le travail, la famille, les amis, les activités extérieures. Il est important de ne pas se mettre une pression supplémentaire pour vivre avec moins. Autrement, on va se retrouver face à un mur. Commencez aujourd'hui, commencez par une toute première petite surface, la première que vous avez sous les yeux et qui serait encombrée par trop d'objets. Ce n'est que le début. Le reste, il viendra, mais ça vous permettra déjà d'accomplir des petites tâches quotidiennes pour arriver au bout de votre démarche. On dit que 15 minutes par jour, pendant 21 jours, dans n'importe quelle activité, crée une routine. Et si votre nouvelle routine était de commencer à vivre avec moi en faisant le moindre effort tous les jours pendant 21 jours ? Et voilà la fin d'un nouvel épisode des Pures. Merci d'avoir partagé ce moment ensemble. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains épisodes et à partager avec vos proches en story ou sur d'autres réseaux. Si vous avez envie de poursuivre cet échange, je vous attends sur mon compte Instagram, Hilaria Fatton, ou sur mon site internet, hilariafatton.com, où vous pouvez également vous abonner à l'éditorial, la newsletter mensuelle où l'on parle de nos sujets préférés en toute simplicité. Et si vous écoutez sur Apple Podcast, des étoiles et un petit commentaire feront connaître Épure au plus grand nombre. Et vos retours feront ma journée. Grazie per avermi ascoltato e a presto.